Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Littérature et bière glacée.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grande Flore Café par Hugues Robert.
Bonsoir, on est très heureux de vous retrouver au Grande Flore Café ce soir. Le 21 mars, c'est pas seulement la Sainte Clémence, c'est pas seulement l'arrivée du printemps, c'est aussi la Journée mondiale de la poésie. Donc Grande Contrôle célèbre la poésie aujourd'hui et dans les jours qui viennent. On a choisi dans le Grande Flore Café de célébrer aussi la poésie, bien entendu, là, c'est la moindre des choses dans une émission dédiée à la littérature sous toutes ses formes. Mais on a choisi, on avait la chance en fait de pouvoir choisir un moyen un peu particulier puisque Anse Limon a accepté de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour. Bonjour Anse.
Salut Hugues.
Et Anse a publié donc il y a quelques mois chez Kidam Éditeur un roman, il faut insister, c'est un roman, même s'il est complètement nourri et gorgé de poésie, mais un roman qui s'appelle Poéticide et dans lequel, on l'élucidera certainement dans le cours de cette émission, qui aime bien châtie bien, et donc peut-être que le meilleur service à rendre à la poésie, c'est d'aller tuer les poètes. Et donc il y a un narrateur redoutable qui se déplace dans le temps, chaque fois que nécessaire, pour aller exécuter par les moyens les plus divers, en fait, un certain nombre de poètes. Et Anse nous expliquera certainement tout à l'heure pourquoi ces poètes-là, pourquoi il fallait aussi saisir le mal à la racine dans certains cas. En tout cas, c'est une forme d'hommage qui est certes un peu paradoxale, mais qui est absolument réjouissant. C'est un livre qui se dévore, c'est un livre qui justement réussit cette prouesse d'être à la fois un roman à chute, et oui, presque un thriller, mais qui tout le long, en fait, à la fois nous donne un véritable aperçu très incisif sur ce qui fait l'essence de tel ou tel poète ou poétesse, et de la façon dont la poésie va se nourrir justement de l'histoire, de thèmes, et qui n'hésite pas à utiliser une forme assez originale, puisqu'à chaque fois que la poésie, et notamment la poésie rimée, s'introduit dans le texte, elle est barrée en fait d'un trait oblique qu'on ne va pas dire rageur, mais en tout cas nettement décisif, hein, qui disqualifie en fait ce texte en disant voilà, la poésie est là, mais en même temps elle est barrée. Alors peut-être pour commencer, Anse, voilà, comment est venue cette envie et cette décision de traiter la poésie, de traiter le mal par le mal ou de traiter le bien par le mal, et donc d'aller procéder à ces exécutions.
Tout d'abord, merci pour cette super présentation. Je suis assez ému. On a déjà eu l'occasion de se voir il y a quelques mois. Merci de m'avoir invité pour cette journée mondiale des poètes. Alors, Poéticide est né tout simplement d'une sorte de besoin, presque un besoin vital d'écrire de la poésie, mais en même temps sous une forme qui soit un peu novatrice. Alors, sans prétendre refaire évidemment la littérature, mais comme je le dis souvent, j'arrive rarement à écrire quelque chose qui soit de l'ordre d'un recueil au sens d'un agrégat de poèmes. Et ensuite, j'ai un amour immodéré pour les morts. Sans parler d'obsession morbide, mais j'ai un amour immodéré pour les morts, pour les poètes morts, ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas mes contemporains, on en parlera tout à l'heure. Et, et puis une nostalgie d'un temps que je n'ai pas vécu, et notamment le 19e siècle. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vais de préférence tuer Rimbaud, Hugo, et j'aurais pu en tuer encore d'autres, mais il fallait élargir le menu. Et l'idée étant de à la fois construire une œuvre qui soit qui ait une tension, elle relève un peu du théâtre et du roman à la fois. Enfin, vous avez dit thriller, il y a un peu de ça, et puis aussi qui constitue un recueil en filigrane. Donc c'est pour ça que les poèmes sont barrés. Et puis ensuite s'interroger, une sorte de réflexion pseudo-philosophique sur la nécessité de la poésie. On en parlait tout à l'heure. Demain, par exemple, il y a une sorte de table ronde sur à quoi bon la poésie. La poésie est un genre qui est parfois remis en question. En tout cas, on se pose souvent la question, à quoi bon la poésie ? Est-ce que ce n'est pas un genre obsolète ? Est-ce qu'il n'y a pas une date de péremption ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de solipsisme, d'égotisme dans la poésie ? Alors qu'on se pose très rarement la question pour le théâtre et le roman. Alors, je ne pense pas, moi, du tout. Ce n'est pas du tout un pamphlet anti-poésie. Bon, voilà, même s'il y a, comme quand Nietzsche assassine les déchire les soutanes, c'est pas anti-religieux, simplement il pointe les excès. Donc c'est plus un texte nietzschéen qu'autre chose. Mais l'idée étant de reprendre ces préjugés-là, tout en essayant de rendre un hommage à la poésie, de construire un recueil. Et quand j'ai entendu le petit clic, c'est-à-dire l'histoire, et qu'il me fallait prendre des poètes, je me suis mis à écrire Poéticide. En ayant bien en tête qu'il me fallait brasser plusieurs siècles d'histoire et aussi plusieurs styles sans tomber dans l'écueil du pastiche. Mais donc oui, mon but de départ était de rendre hommage aux poètes en les assassinant. Voilà, c'était une déclaration d'amour aux poètes.
Alors, avant que tu nous lises un premier extrait et donc qu'on traite, si j'ose dire, un premier poète, je voulais simplement mentionner, donc pour ceux qui n'aient celles et ceux qui
nous maltraite.
Qu'on maltraite un poète, pour celles et ceux qui nous écoutent, que ce soir, justement, en Ground Control, et pour aller tout à fait dans le sens de ce que tu disais, organise une grosse table ronde sur, en fait, la poésie comme levier notamment de rêve et d'utopie, et le fait que la poésie se prête peut-être plus, et en tout cas, c'est ce que cette table ronde essaiera de débattre et peut-être, qui sait, de démontrer, de façon beaucoup plus privilégiée, en effet, que des formes plus prosaïques ou que le roman, tout simplement, que la poésie se prête effectivement à l'action collective et à la création collective. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je crois, ressort aussi en filigrane dans une partie des choses que tu as écrites dans Poéticide. Et donc, peut-être tu vas nous exécuter devant nous, à l'antenne, un premier poète.
On va exécuter Lord Byron. C'est le premier poète qui est exécuté. Alors, pourquoi Lord Byron et pourquoi d'autres, Pessoa, etc. J'ai choisi ces poètes-là, d'ailleurs pas. Premièrement parce que ce sont des poètes que j'admire et aussi parce que ce sont des poètes qui symbolisent à chaque fois quelque chose et qu'a priori on connaît un peu. Alors peut-être pas Lord Byron, j'ai interrogé des élèves d'une classe de première il y a quelques jours. Est-ce que vous savez qui est Lord Byron ? Pas un n'a su me dire qui il était. Bon, Lord Byron, c'est l'auteur du Diaour, de Manfred, de Don Juan, etc. Et c'est aussi celui qui véhicule une sorte de légende de séducteur, de celui qui est allé combattre ce qu'on appelle maintenant la Turquie avec les Philhellènes, etc. etc. Bon, et comment déconstruire cette légende-là ? Déconstruire la légende autour des poètes, c'est un moyen aussi d'aller les retrouver et de faire connaître qui ils sont vraiment. Donc, voilà, c'est une sorte de prétexte au sens littéral du terme. Donc le texte commence avec une présentation des poètes, donc un poème barré qui s'appelle « Les poètes ». Et ensuite, j'exécute Lord Byron par où il a fauté. Et c'est assez violent, je m'en excuse. Donc ça commence par un poème en alexandrin qui s'appelle « Les poètes ». Nous sommes les pasteurs, nous sommes les poètes, nous sommes les élus commandant la tempête sur un plateau de verre où trône une coupette. Et nous buvons, et nous trinquons, et nous cuvons, nous rendons en relance ce que nous vous devons. Mais que vois-je au hasard ? Un joli papillon qui flirte avec le ciel et rime avec sillon ? Je m'en vais l'enfermer dans ma verte rature, je sais bien mieux que vous ce que vaut la nature. Sur le trottoir d'en face, une jambe coupée ? Pourquoi ne pas en faire une belle épopée ? Mes prophéties coudoient les fondements du monde, je transmute l'abîme en lumière féconde. Nous sommes le Messie, nous sommes la trompette. Nous pleurons vos malheurs sur un air de goguette. Et nous voyons, et nous sentons, et nous disons. Nous accommodons l'aube à toutes les saisons. Oh, je suis les poètes, amants du peuplier. Je l'écrirai 100 fois pour ne pas l'oublier. Mais cet enfant qui pleure, et ces clochards qui crèvent. Mais non, vous vous trompez. Regardez bien, il rêve. Arrayé, comme tous les autres. Quelques larmes ruissellent sur ses joues. Ses yeux sont dessillés. La mémoire a ce don d'ouvrir l'intelligence et d'amollir le cœur. Émergeant tout à fait d'une amnésie d'un instant, d'une poignée de minutes à peine, il règle sa mire et fait le point. Il y est. Le choc de l'absolu et de l'incomplétude. Rencontre avec la réalité. De ce hiatus est née sa haine, débris brûlant d'amour déçu. Les poètes nous ont menti. Pire, Ils nous ont subtilisé le monde et l'existence que nous étions destinés à y mener parmi les autres espèces. Assassiner les poètes, c'est rendre aux hommes la vision nette et pure, dégager des schémas déformants, des prismes flous du symbolisme, du romantisme et de tous ces courants délétères qui ont prétendu lever le voile de l'apparence, la jupe de Dame Nature, pour nous faire soi-disant toucher du bout du doigt le noyau dur et bouillonnant, l'essence, la chose en soi, l'évidence première et irréfragable. Vaste supercherie dont il se sent plus que quiconque victime, lui qui, à l'âge où les efforts de toute une vie doivent rapporter à celui qui les a consentis les fruits d'une retraite paisible et prospère, n'a que ses regrets pour compagnons, ses occasions manquées pour aventure et ses humiliations publiques pour titres honorifiques et autres lettres de noblesse. Poète raté. Disloquer quelques troncs pour que sombre le bois et d'un coup de clavier broyer le poumon vert. Voilà pourquoi, pense-t-il, ce fameux Lord Byron se tient désormais à deux ou trois pas devant lui, en équilibre instable sur le sommet d'un rempart, fouetté par le vent, se demandant à son tour ce qui a pu l'amener ici. Et je peux l'exécuter ? On l'exécute.
On l'exécute.
Je m'exécute. Avoir si bien chanté la mélancolie de Childe Harold, la malédiction du Giaour, le désespoir de Manfred, la candeur de Don Juan, et te retrouver dans ce bouge infect, non pas à cause du lieu à proprement parler, mais bien plutôt des circonstances. Malgré ta tunique rouge et or et ton casque homérique, à deux doigts de la défaite, car toi, qui es venu galvaniser les souliottes et chercher l'éternité, tu vas mourir. Et même un peu plus tôt que prévu, et tes fils Hélène vont se faire massacrer par le menu. Tu voulais nous faire croire que le deuil est rude et sublime, que la séparation déchire et recompose, que la nature est peuplée de forces obscures et merveilleuses, que les roses commémorent les disparus, que la fin de l'univers est un spectacle alléchant, que l'homme est terriblement bestial, certes, mais tout autant spirituel, enfin que chaque journée passée sur ce globe en rotation peut être un chef-d'œuvre d'héroïsme et de vertu. Et qu'as-tu fait, dis-moi ? Qu'as-tu vécu, petit cochon ? Tu as baisé pute, servante, demi-sœur, épouse d'un ami, fils d'un fermier, prêché le vice et la misanthropie, théoriser la débauche, la luxure, la démesure, sans oublier la sodomie. Ne parle pas. J'ai décidé que l'ardent défenseur des libertés resterait muet. Du sang, du soleil, et bientôt la descente à pic, mon pauvre Icare. Toi, le séducteur notoire, accusé d'être un démon par ta propre moitié, dédaigné par un soldat grec de 15 ans. Ta renommée, my lord, à l'odeur de la merde. Tu rencontres la mort où Manfred échoua, sur les hauteurs. Ah, tu n'es pas seul, barre de foutraque. Ta poésie mensongère t'accompagne. Les rochers, d'ici-bas, transperceront ta morgue. Je t'accorde un dernier geste. Retourne-toi et considère ma nudité. Je vois qu'elle t'offense à ton air dégoûté. À présent, tombe et console-toi. Comment tu n'as pas vu ? Tu ne t'effondres pas pour rien. Il t'attend tout au fond. Ton chien.
Voilà, bah c'est donc la première victime du poéticide, Lord Byron. Alors, comme tu le mentionnais, c'est vrai que dans un contexte, autant ça semble tout à fait pertinent et légitime de commencer par Lord Byron, pour les raisons que tu indiquais, parce que son côté emblématique est justement dans la construction de la poésie moderne et puis d'un certain type de romantisme en fait et de lien entre la vie du poète et puis son œuvre, c'est indéniable. Mais c'est vrai qu'en France, il n'a pas le caractère aussi emblématique qu'il l'a dans les pays anglo-saxons. Alors pour tout un tas de raisons, hein, mais il y a le fait que jusqu'à aujourd'hui ou presque en France, on n'enseigne pas dans le secondaire en fait les auteurs étrangers ou sous forme anecdotique, mais ils ne font pas partie des programmes officiels. Pour des raisons multiples, mais donc c'est vrai que Byron ne peut pas avoir la résonance pour un jeune français aujourd'hui, ou même pour un moins jeune, qu'il a pour un anglais ou pour un américain. Et c'est vrai aussi pour des poètes complètement différents hein, par rapport à Byron, mais pour des poètes comme Walt Whitman, ou comme même Ezra Pound, qui sont connus en France, mais qui sont connus par des adultes en fait qui vont les lire de façon volontariste et exactement. Non pas par, comme on en parlera tout à l'heure, comme par exemple Rimbaud, Hugo, bien entendu, ou Baudelaire, qui font partie du
programme,
du programme et donc du patrimoine de chacun, même pour des gens qui ne remettront pas le nez dans un recueil de poésie pendant 30 ans ensuite, qui est une des choses qu'on évoquera tout à l'heure. Ce statut effectivement de la poésie, on le sent, c'est ce que tu dis à Byron, hein, tu lui dis, déjà tu commences à lui dire mais tu te drapes dans quelque chose là, et c'est une erreur. Enfin, la poésie n'a pas besoin de se draper dans quelque chose pour exister. C'est un de ces mensonges, peut-être, non ?
Oui, alors c'est ce avec quoi je m'amuse dans Poéticide. C'est vraiment un jeu, et c'est ce qui c'est ce vers quoi, enfin, c'est ce dont se dépouille le tueur au fur et à mesure du récit. Et c'est d'ailleurs pourquoi je le fais. Mourir nu, entre guillemets, c'est ce décorum autour du poète, le statut du poète, et qui finalement fait oublier l'écriture elle-même. Notamment quand on parle de Rimbaud, on connaît deux ou trois poèmes, enfin je parle des non-spécialistes, ou des gens qui ne lisent pas forcément de manière très précise, ou qui n'étudient pas. On connaît Le bateau ivre, Les chercheuses de poux, et pareil pour Victor Hugo finalement. Et en revanche, on connaît plus l'exil de Victor Hugo, on connaît ses positions politiques, quand on veut l'attaquer, on recherche ses vieux discours pseudo-colonialistes, ou là Rimbaud, on dit qu'il est allé vendre des armes au roi Ménélique de Shoah, etc. Bon. Ou alors on le vante comme ayant écrit sa poésie à un très jeune âge. Donc c'est cette légende-là qui cache un peu les textes eux-mêmes. Et quand on revient aux textes eux-mêmes, c'est fulgurant. Il y a des fulgurants chez Rimbaud. Et même, vous parlez de... Enfin, on va se tutoyer, on ne va pas faire semblant de se bouger. Tu parles de Byron. Il est assez peu connu, je dis, en France. Mais il a nourri toute une génération de jeunes romantiques au 19e siècle, tout le courant qu'on appelle les frénétiques. Et il a nourri aussi Victor Hugo, le premier Hugo qui est très frénétique. Vous prenez le Hugo des Orientales, le Hugo de ses premiers romans, même Notre-Dame de Paris ou Anne d'Islande. Enfin, on sent qu'il est nourri de ça, de Byron, et les jeunes romantiques entre eux se blaguaient en disant tu as le teint byronien, t'es blafard, enfin, il faut être byronien pour séduire les femmes. Il était vraiment à la mode, et cette mode évidemment n'a pas duré. Et la légende est un petit peu restée parce que c'est quelqu'un qui est mort au combat. Évidemment, quand on cherche un petit peu dans sa biographie, on trouve qu'il est mort dans des circonstances totalement minables et que voilà, on a construit a posteriori cette légende et qu'on en oublie ses écrits. Et c'est quand on lit Manfred, quand on lit Don Juan, et sa version de Don Juan, elle est beaucoup plus... Don Juan est autant coupable que victime quand on lit son texte sur Caïn. C'est vraiment... Il y a des fulgurances qui sont et qui nourrissent encore la poésie contemporaine, dont on parlera encore après, sinon on va dire que je ne parle que des morts. Et que, voilà. Mais donc voilà, c'est la posture poétique est quelque chose qu'il faut non pas dénoncer, mais peut-être prendre à la légère, ou alors la reprendre à son compte pour en faire quelque chose, un jeu. Pour en faire un jeu, mais ne surtout pas s'y perdre. Et c'est propre à la poésie, finalement.
On va certainement reparler de jeux, notamment dans la suite de l'émission. Avant donc de poursuivre ce programme d'assassinat amoureux, hein, et d'assassinat hommage, on va faire une première pause musicale et vous saisirez certainement, peut-être, pourquoi cette musique-là.
Baghdad, dancers of death, murder in the air with the next breath. Macho queens selling war makers' toys, raining destruction, good old boys. Deathbringer in Queen George's eyes, read his lips, war maker lies. Religious Reichs, revenging sword. Thou shalt kill in the name of the Lord. The sheep and the cattle can't keep from milling. Some are more than ready, some aren't willing. Volunteering in what they're not dying for.
the young Republican Guard, crying for war. Free speech, as free as it's thought. Controlled behavior reacts as it's taught. Fighting for peace, can't comprehend. Hate out of love is violent to pretend. Over Baghdad, bombs over Baghdad. Vampires drinking blood and oil cocktails. Their violence works, it hardly ever fails. When blind man can't see, he believes blind. Blind obedience is the child of mindless mind. New world order is an old world lie. Fighting for peace, see how they die. Dragging in God as they turn violent. God says nothing, he just remains silent. Stop madmen from running loose. Mother Earth woman can't take the abuse. Living right now is living for tomorrow. Time is saying there's no more time to borrow. Vampires drinking blood and oil cocktails. Their violence works, it hardly ever fails.
Voilà, ben on écoutait John Trudell, c'est pas complètement par hasard, puisque John Trudell, en fait, sous ses apparences musicales, c'est un poète amérindien, qui a été aussi un conférencier, donc quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de mettre la parole, en fait, en scène, et ensuite, éventuellement, d'y ajouter, comme dans une de ses plus récentes créations, donc Bombs Over Baghdad, qui, comme vous en doutez, parlait de l'invasion de l'Irak. John Trudell, donc, est un poète, tout ce qu'il y a de plus contemporain, américain, et ce qui nous éloigne de Lord Byron, mais on retrouve effectivement le fait que la vie et la poésie sont parfois empruntent des chemins curieusement similaires, et que donc dans ces cas-là, il faut que la vigilance en fait du narrateur de poéticide s'exerce et vienne ramener un peu ces poètes à la raison en leur proposant un sort moins enviable permettant enfin d'apprécier d'autant plus leur texte. Donc, qui nous proposes-tu éventuellement ensuite de et pourquoi d'éliminer.
On va dire que je ne fais que tuer. On pourra parler un peu des contemporains après, qui sont infiniment estimables. Parce que je... enfin, bon. peut-être Baudelaire, parce que Baudelaire, il a aussi un côté très, très symbolique. Parce que bon, ça, c'est un goût particulier que j'ai. C'est que je trouve qu'il a écrit parmi les plus beaux sonnets de la littérature française et qu'il véhicule avec lui une image un peu le spleen, l'idéal, tout le côté satanique. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui a été aussi condamné pour ce qu'il a écrit. Maintenant, avec presque deux siècles de recul, on trouve plus ça. Avec ce qu'on lit maintenant, c'est
totalement de quoi fouetter un chat.
Voilà, il y a plus de quoi fouetter un chat. Il y avait quelque chose de sulfureux chez lui. Il dégage quelque chose de sulfureux aussi par sa vie, par ses mœurs. Et c'était drôle d'aller le rencontrer et de le tuer d'une manière tout à fait ridicule. Et par la figure de l'albatros notamment. Je pense que il a saisi quelque chose du poète, c'est-à-dire dans cette dichotomie. C'est très philosophique aussi de lire Baudelaire, de Les fleurs du mal et ses poèmes en prose aussi. Et en plus, c'est quelqu'un qui avait une acuité extrême sur tout ce qui était l'art. Aussi, il faut lire ses critiques d'art, c'est une intelligence extrême et d'une finesse extrême aussi. Donc, on va tuer Baudelaire, je vous laisse découvrir comment on va le tuer. Et puis surtout, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, pour ceux qui n'auraient vraiment pas lu Les Fleurs du Mal, ni les poèmes en prose de Swine de Paris, ce sont vraiment des lectures, La Tristesse de la Lune, ce soir la Lune rêve avec plus de Paris, c'est l'un des poèmes, les plus beaux poèmes du répertoire français. 6 rue Le Regrattier. Malgré la gueule de bois, le nuage onirico-cyclique, le décalage séculaire et l'envie de gerber. Je reconnais la façade, la porte massive, les volets clos, les balcons modestement fleuris. Il fait nuit, comme toujours. Nuit comme sur la peau de Jeanne la mulâtresse. Et toi, tu te tiens là, stoïque, au confluent du spleen et de l'idéal, mon Charles. Et tu n'as pas encore 1000 ans. Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux. Retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux mêlés de métal et d'agate. Ah, mais vois plutôt, ce chat n'est pas si petit et ses griffes, comme ses yeux, contiennent ce métal qui les rend si brillants et si précieux. Le voici qui s'approche et s'apprête à bondir, chassant loin, très loin de toi l'horrible syphilis. Tu sais, ce vampire échappé des cuisses de Phyllis. Il est certain que le temps se dilate, mon Charles, comme une verge au seuil d'un harem, que Satan bat la cadence de nos allers-retours entre l'ennui et le néant, que le péché originel nous fait plus merdeux que la merde où le souffle divin s'est autrefois posé pour nous animer, que nous sommes lourds, coupables, vulgaires, mais il est faux, et tu dois payer pour avoir ainsi falsifié le verbe et le concept, que la douleur puisse être commuée en beauté par l'art, la boue en or, le dégoût en espoir, que la femme, agile et noble, avec son œil où germe l'ouragan, soit un point d'accès à l'idéal, que l'idéal existe, qu'il soit possible de l'entrevoir, parfois, dans la nature ou par l'imagination, cette reine des facultés. Tu t'es fourvoyé, misérable soulard. Et ce mistigri te déchiquette à l'ombre des nuages du soir, comme si tes lambeaux n'étaient plus que les rougeâtres pétales d'une fleur. Du mal ? Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat, fort, doux, et charmant. Ah, ta cervelle ! Oui, ta cervelle ! Et tant de métaphores, de rimes, d'enjambements, de critiques et de lambeaux de prose qui ne se mêleront jamais au arôme du hashish, du stupre, du parterre et de l'éjaculation précoce. L'horreur de la vie et l'extase de la vie ? Encore eût-il fallu couper la poire en deux pour ne conserver qu'un seul pépin. Oh, quelle boucherie ! Et quel manque de dignité ! Bouf ! Ce chat s'acharne. Sed non satiata. Albatros, albatros, cauchemar des archers, toi qui par ta vitesse étonna la cigogne, tu reposes plus plat qu'une morne charogne et tu rebuterais les plus frustes bouchers. L'idéal ? Janus bifrons, et le ver rongera ta peau comme un remords.
Et voilà pour Baudelaire. Donc,
pardon pour lui.
qui reçoit donc un sort bien mérité. C'est une des choses qui est saisissante dans Poéticide, c'est que voilà.
C'était l'instant lolcats.
Non, mais sans mentionner chacun, donc ou chacune de celles ou ceux que tu exécutes, tu joues en fait assez admirablement, je trouve, avec effectivement juste à l'extrême limite du pastiche, mais en mettant le doigt dans ce qui a pu chez certains d'entre eux, c'est flagrant chez Baudelaire, c'est flagrant chez Hugo, notamment, hein, ce qui a pu devenir au fil des années une sorte de marque de fabrique en fait chez les uns ou les autres. Il y en a où c'est moins flagrant, mais tu le fais avec beaucoup de tendresse, hein, et on sent que bien sûr tu les exécutes froidement parce que c'est nécessaire, mais tu n'arrives pas à masquer la profonde tendresse que tu as pour eux néanmoins. Enfin.
Oui, oui. Bah, l'objet, ça n'était pas évidemment de les tuer, mais c'était de revenir et de glisser des références. Quand on a une lecture un petit peu plus attentive du texte, sans parler de moi, on peut y piocher des références. Enfin, si on lit l'assassinat du petit Pessoa, enfin, je tue le petit Pessoa avant qu'il se mette à graphomanier.
Et voilà.
Assumer ses identités multiples. Voilà, c'était une manière aussi de semer et de rappeler qui ils étaient et de qui nous dépendons aujourd'hui. On ne cesse de rappeler l'héritage de Pessoa, de Hugo, de Rimbaud, et qui ils étaient, qui étaient-ils à cette époque où on parle de l'avenir de la poésie, on le situe dans la performance, on le situe dans la poésie en vers libre. D'accord, il y a de la place pour tout le monde. J'en parlais encore avec Jacques Bonafé tout à l'heure. Il y a de la place pour tout le monde. Oui, on est d'accord, il y a de la place pour tout le monde. Je suis œcuménique, voilà. Il y a de la place pour tout le monde, mais on ne peut pas écrire sans référence. Je veux dire, on est gorgé de références. Il faut assumer ces gens qui nous ont portés, qui nous ont amenés là où nous étions. Et l'idée étant de retrouver ces racines-là et de trouver un prétexte, le prétexte étant d'aller les tuer. Et le poéticide a une bonne raison pour aller les tuer, bien évidemment. Et bon, après, un peu de fantastique, parce qu'on ne remonte pas le temps comme ça, comme Marty McFly. Ou de... voilà. Et finalement, de se défaire de ses préjugés au fur et à mesure qu'il tue, et de, par ses poèmes barrés, voilà, à la fois provoquer en se disant « à quoi bon cette poésie ?» c'est la question que se pose le poéticide. Et c'est une question à laquelle il répond, il finit par répondre. Donc ça n'est pas une destruction de la poésie, une destruction pamphlétaire, mais c'est plutôt une question, un questionnement sur le fond de la poésie qui a une valeur qui est éminemment précieuse. Et cette valeur apparaît à la fin avec ce long poème qui est absolument en forme libre et qui est un poème de remords, un cri de regret, voilà. Et évidemment que l'objet n'était pas de faire de la boucherie pour de la boucherie. Je laisse ça aux séries Netflix.
On va se rapprocher peu à peu des contemporains, effectivement, et d'aborder certains poètes vivants. Mais dans cette part, effectivement, d'héritage que tu soulignes, d'héritage qui est parfois décrié, qui est parfois au contraire encensé peut-être au-delà du raisonnable, donc qui se débat toujours un peu dans ces deux postures, il y a quelque chose, effectivement, qui nous titille de toute façon, qui est... dans ce qu'on entend comme discours autour de la poésie, non pas de poésie elle-même, telle qu'elle se pratique, telle qu'elle s'écrit, telle qu'elle se performe, effectivement, de nos jours, il y a toujours, effectivement, en ce sens, ce discours de regret, de nostalgie, en disant « Ah, les gens ne lisent plus de poésie, les gens ne pratiquent pas de poésie », alors qu'effectivement, tout un tas d'initiatives... très proches, en fait, du terrain, des personnes, montrent que c'est au contraire quelque chose qui... À la différence de ce procès en hermétisme et en hauteur, que justement il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire de façon très immédiate en fait et très forte en poésie. En tout cas, c'est un sentiment, je trouve, qu'on ressent dès qu'on ouvre un peu les yeux et les oreilles aujourd'hui. Est-ce que ça rejoint toi qui est beaucoup plus justement dans la pratique de la poésie, aussi bien dans l'écriture que dans son aspect éditorial? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aujourd'hui, un bouillonnement possible ou un bouillonnement réel, même s'il ne se soucie pas de médiatisation au fond?
Tu veux dire dans le bouillonnement à travers les formes et les pratiques? Oui, de toute façon, pour répondre à la question de « on lit moins de poésie, on lit pas de poésie », ça a toujours été comme ça. La poésie a toujours été un genre, entre guillemets, mineur. Pourquoi? Enfin, mineur, entre guillemets, par rapport au roman, c'est une forme non narrative et un peu plus exigeante. C'est plus exigeant de lire, a priori, un recueil de poésie qu'un roman. Un roman, c'est une histoire avec un nœud, un dénouement. Bon, c'est a priori un genre plus facile. C'est vraiment, a priori, un genre plus facile. Ensuite, ça peut être en effet accusé d'élitisme, mais bien souvent à tort, parce qu'on utilise des mots qui sont plus recherchés, parce que c'est la réalité qui exige qu'on capte, qu'on utilise des mots. Alors, on peut faire le procès, et on l'a déjà fait à d'autres poètes, et évidemment, si vous lisez des poètes, même si vous lisez Lopin, Kellen, etc., pour citer Verheyen, vous lisez des poètes actuels, et s'il faut sortir un dictionnaire, tant mieux, mais c'est pas pour autant qu'ils sont hermétiques. Vous lisez Mallarmé, il est bien plus hermétique. Ils ne sont pas hermétiques pour être hermétiques. Il y a toujours un sens à capter, et j'ai envie de dire, si vous comprenez même immédiatement un poème, là, c'est peut-être là qu'il y a un problème. Pour citer un auteur que j'aime beaucoup dont je ne cesse de parler, Bolaño, je ne comprends pas tout. Et heureusement. Et pour ce qui est du foisonnement des pratiques, pour ce qui est de la performance, pour ce qui est de l'édition, il y a une multitude de maisons d'édition poétique, et vous trouvez tous les genres. Pour citer quelques maisons poétiques qui sont très bien, les éditions Une qui publient des textes qui sont très très bien, il y a Flora Bonfanti qui est très bien, par exemple, dans les éditions Une, j'en oublie, mais qui ont des textes beaucoup plus sobres. Flora Bonfanti, elle a un arrière-fond beaucoup plus philosophique, avec une écriture pas sobre ou pas d'envolée romantique ou qu'on peut trouver dans Poéticide. Vous avez les éditions Chêne qui sont plus dans la lignée de d'un Bonnefoy ou d'un Jacoté. Vous avez le Castor Astral avec Cécile Coulon, avec Thomas Vino. Je ne me fais pas de soucis. Le procès qu'on fait à la poésie, c'est beaucoup plus d'être un peu, entre guillemets, has-been, d'être dans l'égotisme et d'être à côté de la réalité. C'est-à-dire que vous parlez des fleurs, des cailloux, pendant qu'on se fait trucider, pendant qu'il y a la guerre, etc. Alors, il y a Il y a un pan de la poésie, qui dit on va sauver le monde avec la poésie, et un autre qui dit qui se réfugie dans le subjectivisme. Enfin, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Au 19e siècle, les jeunes romantiques brandissaient les livres avec un vrai programme politique par ailleurs. Ils formaient des cénacles en disant on va faire péter le gouvernement, on va. Et finalement, ça n'a rien donné. Ça n'a absolument rien donné. Donc, en réalité, c'est un faux procès. La poésie, déjà, ça provient d'une nécessité d'écrire. Tous les poètes qui sont là, ils en sont même morts parfois. Ils se sentaient une affinité et un besoin d'écrire, une affinité, que ce soit avec la nature, avec les éléments, avec le cosmos. Voilà, ils écrivaient par nécessité, parce que c'était un besoin d'écrire, et parfois même pas publié. Moi, quand je parle des auteurs du 19e, que ce soit Petrus Boré, Filio Theonetti, parfois ils s'auto-éditaient, hein, ils n'étaient pas publiés à plus de 200 ou 250, et la poésie généralement ne se vend pas à des milliers d'exemplaires. Et ensuite, dire que la poésie sauvera le monde, c'est faux. C'est faux, il faut être réaliste. Néanmoins, elle peut la rendre habitable. Elle peut la rendre habitable, et c'est plutôt une bonne nouvelle qu'elle se diffuse autant sur les réseaux sociaux et qu'elle permette d'être partagée, qu'elle permette d'être démocratisée. Ensuite, la vraie question, c'est celle de l'exigence. Est-ce que le fait de ne pas écrire en versifié, il y a les gens qui, entre guillemets, gardent le temple et qui pensent qu'il y a une déperdition, et ceux qui pensent qu'il faut une poésie du quotidien, qui soit proche des lecteurs. Et bon, ce qui plaît, a priori, comme je disais tout à l'heure. Mais les accusations qui affirment que la poésie serait un genre totalement aux oubliés, elle est toujours là. Elle est toujours là, et finalement, dire le premier poète, c'est finalement celui qui, à mon avis, s'est ébahi devant quelque chose qu'il a vu dans la nature et qui s'est mis à dessiner. Vous prenez Walt Whitman et vous prenez Agrippa d'Aubigné, qui écrit « C'est tragique ». On est aux antipodes l'un de l'autre, et pour autant, il y a un plaisir indicible à lire les deux.
Il y a une chose que je trouve flagrante dans ce que tu dis, qui m'inspire cette réaction. C'est vrai, mais il y a aussi effectivement eu un procès parfois, sur les 30 ou 40 dernières années, un procès en mièvrerie en fait d'une certaine poésie. Procès qui n'est pas toujours complètement immérité, hein, il faut être honnête. Mais j'ai aussi le sentiment que c'est parce que, pour tout un tas de raisons qu'on pourrait passer des heures à décrypter et analyser, il y a eu aussi, dans un certain discours médiatique ordinaire, une façon de privilégier les franges les plus extrêmes de la poésie lyrique ou de la poésie bucolique. Et par exemple, tu mentionnais des poésies de combat, effectivement, qui étaient quelque chose qui... Alors, évidemment, pas en France, dans les années 1970 ou 1980, mais qui sont restées quelque chose d'extrêmement prégnant, par exemple au Chili, par exemple au Nicaragua, où la poésie avait un rôle comme le protest song américain de l'entre-deux-guerres ou des années 50. Et c'est quelque chose qui, je pense, a été... pour des raisons qui ne sont pas toutes innocentes, a été un peu ringardisé en disant « Ouais, la poésie engagée, la poésie de combat, bon, ça va, quoi, hein, c'est fini. » Et du coup, c'est vrai que ça faisait ressortir aussi par contraste certaines des poésies, non pas les plus hermétiques, loin de loi, mais les plus ancrées dans un quotidien qui, effectivement, au bout d'un moment, demande... Et on rejoint ce que tu disais sur l'exigence, c'est que pour faire de la poésie avec du lyrique pur et du bucolique, il faut un immense talent qui n'est pas toujours au rendez-vous, mais de même qu'il n'est pas toujours au rendez-vous dans la prose, bien sûr. Et une autre chose qui moi, me semble, mais cette fois uniquement en tant que lecteur, c'est que depuis au moins, et ce ne sera pas la bonne marque, mais parce que je pense... à ce que disait Char de son ami, ce grand poète qui était Marcel Proust. C'est assez typique, c'est que à un moment donné, il a commencé à avoir une diffusion en fait de l'essence poétique ou de ce que la poésie peut représenter justement en termes de maniement du langage dans une certaine prose également, et qui fait que la frontière s'est brouillée aussi d'une certaine façon, et qu'il y a des prosateurs, des romanciers modernes ou contemporains qui sont en fait, sans aucune discussion possible, des poètes, au sens où ils ont un maniement du langage, qui en remontrerait à bien des gens qui écrivent en vers, en réalité. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant aussi, c'est que en se brouillant, les frontières ouvrent en fait des nouveaux espaces, des nouveaux horizons, des choses où il peut se passer des choses extrêmement intéressantes.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. En prenant un écrivain, enfin, il est mort aussi, mais bon, c'est... Yves Deltaï, par exemple, quand il écrit de la prose, ou, enfin, c'est... il y a une musique, il y a une cadence, il y a... enfin, ça éclate, les sonorités éclatent, et on se dit, mais c'est poétique, c'est de la poésie. Et il arrive à capter quelque chose de l'essence, et évidemment, il parle... Alors, les deux procès du lyrisme, maintenant, on est un peu, enfin, je ne vais pas dire contaminé, mais par le clinique, par un peu l'école américaine. Il faut être très tranché, il faut écrire un minimum de pages, il faut qu'il y ait du sang, il faut qu'il y ait tout ça. C'est pas une maladie, le lyrisme. Enfin, tant qu'on tombe pas dans la sensiblerie, on a le droit. Et puis, moi, je crois à ce que Kant appelle, attention, je parle de Kant, à ce que Kant appelle une subjectivité universelle, c'est-à-dire. Le poète, c'est aussi celui qui arrive à, et je pense à la poésie arabe et notamment syrienne, c'est celui qui arrive à rendre le quotidien universel. En racontant sa propre vie, il arrive à toucher toutes les vies. Et sinon, c'est de l'anecdote. Mm. Et c'est là que le lecteur va se sentir ému. Et là, il fait poésie. Et c'est ce qu'arrive à faire Deltaï, c'est ce qu'arrive à faire d'autres écrivains. Je parlais tout à l'heure de Quignard. Il y a d'autres écrivains contemporains qui arrivent très bien à le faire. Quand j'ai lu un petit peu Vuillard, quand je lis d'autres qui manient la langue avec une telle. Il y avait Marcel Moreau qui était aussi. Mais c'est
la on en dira certainement un mot tout à l'heure de Marcel Moreau.
La profusion. Une profusion d'images qui sont proprement impressionnantes. On se dit, ça fait poésie. Et l'autre l'aspect, ce dont vous parliez tout à l'heure, l'aspect bucolique, que j'ai raillé aussi un certain temps. Il suffit d'aller voyager un petit peu pour se dire ces gens-là arrivent à capter des choses. Et je pense qu'ils ont senti une sorte d'affinité entre eux et les éléments. Et arriver à rendre ça en poésie, c'est très, très... Enfin, c'est vraiment très, très fort. Et les grands poètes, moi, je pense à ceux que j'ai lus récemment. Alors, les morts, moi, j'ai lu Francis Jammes, j'ai lu Salabreuil, mais j'ai lu des contemporains aussi, je les ai notés là. Je parlais tout à l'heure de Kellen, de Lopin. Un mort, j'ai cité Cadou aussi. J'ai cité Bonfanti. Parmi les vivants, encore, je vais être bien embêté, j'ai plus de vivants. Pour la poésie de... Non, mais pour la poésie de... chez Bruno Doucet, j'ai lu il n'y a pas si longtemps de ça, Auschwitz, c'est mon manteau, et autres chants tziganes. Et aussi, chez Lanskin, les scènes d'Hiroshima, par exemple. Et je pense que ce sont des formes poétiques qui sont entre le témoignage et la poésie. Et ça, c'est très, très fort. C'est très très fort aussi parce que là aussi il n'y a plus vraiment de frontières. Je pense que comme on parlait tout à l'heure de l'évolution du roman en off, il y a aussi une évolution du recueil de poésie. Le recueil n'est plus simplement un agrégat de poèmes classés, etc. Ça devient quelque chose, un tout organique. Mm-hmm. Je pense aussi à Perrine Le Quérec et la poésie d'engagement. Je sais que tu as lu par exemple Rouge Pute, ce qu'elle a fait la dernière fois, qui est un texte assez punchy ou nourri par des témoignages. Ça,
sur les violences exercées auprès des femmes, exactement.
Je pense qu'il n'y a que la poésie qui peut faire ça. Un roman par la fiction, évidemment, le cinéma peut le faire, mais il n'y a que la poésie qui peut mettre la focale là-dessus et s'arrêter et toucher dans l'intimité et utiliser des mots forts. Et vraiment, c'est comme un plan séquence, en fait, la poésie. Et quand Hugo parle du deuil de sa fille, quand par exemple Sanda Voïka dans Trajectoire déroutée, qui est aussi chez Lanskin, met la focale sur le deuil aussi de sa fille, on est complètement submergé d'images. Il n'y a que la poésie, je pense, qui peut faire ça. Donc, sans tomber évidemment dans la mièvrerie ou la sensiblerie, mais ça, on passe très vite et on le repère.
Avant de se diriger vers la troisième partie de notre émission, on va écouter un autre genre de poète. On sait qu'il y a quelques années, il y a eu donc une controverse qui a beaucoup agité les milieux littéraires en se demandant si un prix Nobel de littérature pouvait être donné à un musicien et un chanteur. Donc c'est pas celui-là qu'on va écouter, c'est un autre qui, à mon avis, méritait au moins autant le prix Nobel de littérature que Bob Dylan. Donc voilà.
Sentenced me to 20 years of boredom. trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. You're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Voilà, ça va être la troisième et dernière partie de notre émission. Donc on va poursuivre avec le poéticide dans ce monde, donc paru il y a quelques mois chez Kidam Éditeur. Donc un ouvrage que je vous recommande absolument, on ne recommandera jamais assez. Je voulais, avant qu'on se remette à peut-être tuer un dernier poète et peut-être éviter d'en tuer un, Hans nous dira un mot sur pourquoi il y en a un finalement qui échappe au sort des autres, bien qu'en ayant droit à un traitement complexe. Je voulais mentionner en fait un livre qui n'est pas du tout un livre de poésie, mais qui est un compagnon précieux, je pense, pour n'importe quelle lectrice ou n'importe quel lecteur qui s'intéresse à la poésie. C'est René Char en ses poèmes de Paul Veyne. Donc c'est un livre qui est déjà ancien, hein, qui a presque une trentaine d'années, qui est paru peu de temps après la parution des œuvres complètes de René Char dans la Pléiade, et donc très peu de temps après le décès de René Char, mais un livre qui avait été ébauché en fait du vivant de René Char. Donc Paul Veyne, grand historien et absolument pas poète, et qui était devenu sur le tard un ami de René Char, parmi d'autres, pas nécessairement un ami intime, mais un véritable ami, et avait entrepris ce travail qui est une sorte, comme il le disait lui-même, de paraphrase en fait des poèmes de René Char. Qu'il a mis ensuite à sa sauce, mais qui est donc une sorte d'explication de texte très différente de ce qu'on a pu vivre parfois un peu douloureusement pour certains d'entre nous dans notre scolarité, donc pas de l'explication de texte, mais quelque chose qui justement se penche, et c'est ça qui est passionnant, je trouve, sur justement cette part qui fait l'écriture poétique, qui résiste à la première lecture, donc qui crée de l'équivoque. Et il y a des discussions qui sont évoquées entre Paul Veyne et René Char, donc Paul Veyne jouant le rôle du profane très éduqué, bien entendu, mais qui n'est pas un poète, hein, qui n'est qu'un lecteur de poésie, et René Char celui du praticien, du poète, de celui qui est habité par une forme de génie, et de discuter justement sur cette question de la signification en poésie. Et je trouve qu'au-delà, qu'on aime ou pas René Char, que l'on apprécie ou pas l'historien Paul Veyne, c'est un assez extraordinaire manuel en fait de lecture de la poésie en fait, et sous toutes ses formes. Et c'est quelque chose qui est particulièrement précieux, puisqu'effectivement cette résistance de la poésie est une des choses qui fait son, enfin j'ose le dire, une des choses qui fait son charme, une des choses qui fait sa, ce qui la différencie peut-être d'autres écritures, et qui fait, comme on le disait juste avant la pause musicale, que bien entendu certaines formes de prose contemporaine ou moderne sont évidemment de plein pied dans la poésie, justement par cette puissance non univoque en fait de leur écriture. Et donc avec Hans Limon, on va peut-être évoquer, si tu es d'accord, un cas, en fait, simplement parce qu'il a droit à un traitement un peu particulier, et c'est un poète, bien entendu, qui est important pour nous, qui est Rimbaud.
Rimbaud. C'est un poète particulier dans le panthéon des poètes français, parce qu'il symbolise beaucoup de choses. Rimbaud, c'est un peu la figure du jeune homme éternel. C'est le poète des illuminations, c'est le poète du bateau ivre, c'est le poète des chercheuses de poux, c'est le poète aussi. C'est le génie dans tout ce qu'il a de plus éclatant et de plus caricatural aussi. Il a écrit très jeune, enfin, entre 15 et 17 ans, grosso modo, hein, 15 ou 17 ou 15 et 20, je ne sais plus exactement. Et puis ensuite, il a un peu disparu. Enfin voilà, il a bourlingué. D'ailleurs, René Char en parle, tu as eu raison, Arthur Rimbaud, voilà. Et avec sa voix un peu...
Rocailleuse.
Rocailleuse, Rimbaud, voilà. Donc oui, alors, l'objectif étant de casser un peu le mythe. Enfin, Rimbaud fait partie de mes poètes préférés, bien sûr. Parce que je trouve qu'il y a en lui une rage et quelque chose de juvénile aussi. Forcément, il était très très jeune. Et puis, j'aime assez cette idée de sale gosse, de sale mec. Parce qu'il est allé vendre des armes. Et en même temps, il dénonçait un peu le commerce, un peu la machine commerciale dans ses écrits précédents. Donc, c'était un peu. Donc, le poéticide va le voir et lui dit. T'as vendu des armes, comment ça se fait, enfin, voilà. Et c'est aussi l'image du un peu romantique, même s'il est un peu post-romantique finalement, comme Mallarmé, un peu moins que Mallarmé hein, quand même, mais un peu post-romantique, Rimbaud, parce que je pensais à romantique, un peu post-romantique, mais il véhicule un peu une image de jeune homme qui sert un peu de piédestal peut-être au poète, de séducteur, et donc je le ridiculise en allant le voir, et c'est lui qui finalement révèle au poète, le ramène à son innocence, c'est-à-dire au verbe pur, et qui lui met un ultimatum en lui disant, mais est-ce que tu veux vraiment tuer la poésie, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, la poésie c'est ceci, cela, et c'était un prétexte pour retrouver une seconde jeunesse et pour ramener la poésie à ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire pas du tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire cette espèce de mystification et de culte, mais vraiment le travail, le texte, la transpiration dessus, espèce de cri cosmique lâché, et évidemment c'est que quand on enlève le mythe Rimbaud et qu'on lit par exemple le bateau ivre, on se rend compte que c'est... j'ai relu Une saison d'enfer il n'y a pas longtemps. C'est absolument sublimissime.
Est-ce qu'il y a un dernier poète que tu voudrais exécuter sous nos yeux, sous nos oreilles plus exactement?
Ou
l'un à qui tu laisserais la vie sauve, au cas échéant. Enfin, c'est à ton choix.
Ou je peux lire un poème aussi.
Mais oui.
Je vais faire ça vite fait.
Voilà. Parce qu'on arrive effectivement dans les dernières minutes de notre émission.
Alors là, j'ai la pression. Là.
Vite. L'écriture sous contrainte.
L'écriture sous contrainte. Ah, mais je suis bon dans la contrainte. Voilà. Tiens donc. Alors, je dédie cette chanson aux Gilets jaunes. Voilà. Ça s'appelle Les gens heureux. C'est Villon qui chante ça. Il est pendu, Villon. Les gens heureux n'ont rien à dire qu'à s'empiffrer de bon plaisir. Les gens heureux ne servent à rien qu'à faire frémir les vies de chiens. Les gens heureux ne connaissent pas le repentir qui suit les froids, les traversées, les chemins de croix, les longs déserts sans toit ni voix. Les gens heureux ne savent pas, ne transpirent pas, ne pleurent pas. Ces lourdes nuits qui brûlent mes doigts, ces deuils soumis qui me trouent le foie. Les gens heureux tutoient l'avenir d'un air de rien, d'un air de rire, sans se douter que tout en bas, la misère nue sur les grabats, la tendresse violée dans un coin, les visages tordus sous les poings susurrent à l'oreille des esprits de sombres chants sourds de mépris. Les gens trop heureux font sourire, les mal lotis n'ont qu'à pourrir. Les gens heureux sont des martiens, mi-bateliers, mi-batraciens, voguant sur l'or des privilèges, bien loin des bas-fonds sacrilèges. Et les gens heureux se piquent de liesse et rien ne bouge et rien ne cesse. Les gens heureux ont dans la tête un refrain fardé d'opérette, une litanie publicitaire, un bruissement d'hélicoptères, les reflets flottants des croisières, des beaux demain rejetons d'hier. Les gens heureux sont innocents, rejettent le crime, siphonnent le sang. Les gens heureux croient dur comme jour à l'éternité des amours, au lever de soleil lointain qui fait chanter les blancs matins. Les gens heureux ne voudraient pas marcher dans l'ombre de tes pas. Les gens contents payent la facture, les marginaux puent l'habitude. Les gens heureux sont des ordures.
Voilà, donc c'est Poéticide de Hans Limon, donc chez Kidam Éditeur. Je vous recommande vraiment vivement à tous ceux, toutes celles et ceux qui nous écoutent de vous le procurer, de le lire, de vous y plonger, de vous y replonger. C'est un roman qui est bourré de beauté et d'intelligence et qui forme peut-être l'un des plus étonnants guides de poésie en fait que l'on puisse imaginer. Donc en parcourant ces poètes, en jouant avec leur écriture et en jouant aussi avec les raisons qu'on pourrait avoir effectivement si, de les
juste,
exécuter.
Je peux me permettre, juste pour citer le recueil de mon ami Éric Poindron, Comment vivre en poète. Ce n'est pas pour citer mon ami Éric Poindron, mais c'est juste cette citation de Pierre-Jean Jouve pour finir. Qu'est-ce qu'un poète ? Le poète ne dit qu'un mot toute sa vie quand il parvient à le déceler des orages.
Ouais. Et on va finir en fait en écoutant un poète qui était lui aussi un chanteur, mais qui était un écrivain redoutable et qui nous rappelle peut-être avec une tonalité un peu différente qui est celle des années 50, hein, qui sont loin de nous désormais, qui nous rappelle que la poésie c'est aussi ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une noix quand elle est fermée.
Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit la nuit en rond et les plaines et les monts, les rivières et les vallons. On y voit toute une armée de soldats bardés de fer qui joyeux partent pour la guerre. Et fuyant l'orage des bois, on voit les chevaux du roi près de la rivière. Une noix. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit mille soleils, tous à tes yeux bleus pareils. On y voit briller la mer et dans l'espace d'un éclair, un voilier noir qui chavire. On y voit des écoliers qui dévorent leur tablier, des abbés en bicyclette le 14 juillet en fête. Et ta robe au vent du soir, on y voit tes reposoirs qui s'apprêtent. Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est ouverte? On n'a pas le temps d'y voir, on la croque et puis bonsoir. On n'a pas le temps d'y voir, on la croque. Et puis bonsoir, elle est découverte.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.